Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, bonsoir. Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 17h30 GMT. On est mercredi 15 février 2017 au sommaire. Au Burundi, le Sénarède d'une coalition de l'opposition annonce sa participation au pourparlers qui s'ouvre demain à Arusha. Dans le centre du Mali, des affrontements intercommunautaires ont fait au moins 20 morts selon les autorités. Les autorités rivales en Libye vont créer un comité de sortie de crise avec la médiation égyptienne. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump rencontre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Israel has no better ally than the United States. And I want to assure you,
the voilà. United States. On reviendra sur tout cela dans cette édition et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'opposition burundaise intérieure et en exil, Sénarède, revoit sa copie. Cette plateforme a accepté de se rendre finalement à Arusha pour une nouvelle session de dialogue avec le gouvernement. Ce round sera facilité par Benjamin Kapa, que le Sénarède avait récusé récemment pour son parti pris présumé. Les détails avec Eric Manirakiza.
Le Sénarède ne conditionne plus la reprise du dialogue par le remplacement du médiateur tanzanien comme préalable. Selon le porte-parole de cette coalition, Pancras Chimaye, ils ont noté une évolution positive de la facilitation dans l'organisation des négociations de paix inter-burundais. Cette information a été confirmée par un des leaders du mouvement joint à Bruxelles par VOA Afrique. Ce nouveau round doit s'ouvrir demain à Arusha en Tanzanie pour prendre fin samedi. Le Sénarède entend faire prévaloir ses droits, dit-il. La semaine dernière, une délégation de haut niveau a été reçue à Kampala par le médiateur en chef, le président Yoweri Museveni. Toutefois, la présence du Sénarède ne garantit pas la reprise des pourparlers avec les autorités de Bujumbura, car le gouvernement considère que cette plateforme de l'opposition n'est pas reconnue par aucune loi burundaise.
Au Mali, au moins 20 personnes ont péri dans des violences qui ont éclaté la semaine dernière dans le centre du pays, entre membres de la minorité Peul et des Bambara, principale ethnie du pays. Ce bilan a été fourni par le ministère de la Sécurité et selon la télévision publique ORTM, ces violences ont fait 600 déplacés. 4 ministres, dont celui de la Justice, se sont rendus sur place et ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs de ces violences soient arrêtés et traduits en justice. En Gambie, le président Adama Barrow a nommé le président de la Cour suprême, un poste qui était auparavant occupé par un Nigérian. L'avocat Hassan Boubacar Diallo a été procureur de la Cour pénale internationale pour le Rwanda à Arusha. M. Barrow a promis de nommer des Gambiens à la Cour suprême, alors que son prédécesseur Yahya Jammeh avait fait appel à des étrangers. Le Congolais Toussaint Muntasi a été nommé aujourd'hui procureur spécial pour la Cour pénale spéciale en Centrafrique. Il devra instruire les dossiers à charge contre les crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans ce pays plongé dans une crise politico-militaire depuis 2013 et où les groupes armés continuent de sévir malgré l'élection du président Faustin Archange Touadéra et la présence de la force onusienne MINUSCA, forte de plus de 10 000 hommes. Au Kenya, libération aujourd'hui de 7 représentants syndicaux des médecins écroués pendant 2 jours pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays. En attendant leur jugement en appel, les syndicalistes vont reprendre les discussions avec le gouvernement pour mettre fin à cette grève de 10 semaines. Les explications de Jacques Aristide.
Cette remise en liberté fait suite au récent geste d'ouverture du gouvernement kényan face à la détermination des syndicats et à l'impact négatif de l'incarcération des médecins dans l'opinion publique. Le ministre de la Santé, Cléopa Mailou, avait fait partie hier d'une requête des autorités devant la cour d'appel pour faire libérer les syndicalistes afin que les pourparlers reprennent. Pour les représentants syndicaux, leur libération était le seul moyen pour continuer les négociations. L'objectif est de mettre un terme à l'arrêt de travail de quelques 5000 médecins du secteur public depuis 2 mois et demi. Les grévistes réclament une revalorisation de leur salaire. Le gouvernement avait proposé de les augmenter de 40%, mais la proposition a été refusée par les syndicats. Le jugement en appel des 7 syndicalistes, condamnés mi-janvier à 1 mois de prison, sera entendu le 23 février.
Les principaux dirigeants des autorités rivales en Libye se sont mis d'accord pour former un comité visant à amender l'accord négocié sous l'égide de l'ONU pour sortir le pays de l'impasse politique. C'est ce qu'a annoncé l'Égypte qui joue les médiateurs. Plus de détails avec Saloua Diafaï.
Le chef du gouvernement d'Union nationale, Faiz Sarraj, le président du Parlement de Tobruk Aguila Saleh et le maréchal Khalifa Haftar se trouvaient tous au Caire pour des discussions indirectes parrainées par l'Égypte. Ils se sont mis d'accord, sans se rencontrer, sur la formation d'un comité conjoint qui sera chargé de préparer des amendements à l'accord signé au Maroc en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye. D'un côté, le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et s'appuie sur le Parlement élu de Tobrouk. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump, qui a accueilli tout à l'heure à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, les deux hommes tiennent en ce moment même une conférence de presse conjointe. Les derniers détails avec vous, Gaby Dorsil, dans ce studio.
Deux points ont dominé cette conférence de presse conjointe jusqu'à présent. L'Iran, et à un degré peut-être plus large, la question palestinienne. D'entrée de jeu, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Son gouvernement ne permettra jamais que l'Iran ait accès à l'arme nucléaire. Et sur la question palestinienne, le point crucial, c'est la solution à deux États. On se rappelle qu'un haut responsable de la Maison-Blanche avait déclaré la veille que l'objectif final, la paix entre Israéliens et Palestiniens, n'est pas forcément lié à une solution à deux États, précisant que Washington ne va pas dicter les termes d'un éventuel accord de paix, ce qui serait une dérogation par rapport à la position assumée par les prédécesseurs de Donald Trump. Pour le négociateur palestinien Saeb Erekat, par exemple, l'abandon de la solution à deux États équivaudrait au maintien de ce qu'il appelle le statu quo de l'apartheid. Et qu'a répondu Donald Trump aujourd'hui lors de la conférence de presse ? Je considère les deux options. Je peux être à la fois pour une solution à un seul État et en même temps pour une solution à deux États. De son côté, M. Netanyahou a clairement énoncé ce qu'il appelle ses principes directeurs. Il faut que les Palestiniens renoncent à toute forme de violence. Il faut qu'Israël ait le contrôle total de la partie ouest du Jourdain. La conférence de presse se poursuit et on y reviendra au cours de cette édition.
Merci beaucoup, Gaby, pour cette mise à jour en direct. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait du président Donald Trump qui s'est exprimé tout à l'heure, qui continue d'ailleurs de s'exprimer. On peut l'écouter.
My administration has already imposed new sanctions on Iran, and I will do more to prevent Iran from ever developing. I mean ever.
Mon administration a déjà imposé des sanctions à l'Iran et mon administration ne va jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme atomique. Voilà en gros ce qu'a dit le président américain Donald Trump. Et nous y reviendrons d'ailleurs en analyse dans la deuxième partie de cette édition avec Scott Bob, le chef du service français de VOA Afrique, qui a été correspondant à Jérusalem. Donc nous reviendrons sur tout cela dans la deuxième partie de cette édition, que nous poursuivons d'ailleurs avec l'actualité hors États-Unis et hors Afrique. Le président français François Hollande, qui s'inquiète du risque de cyberattaque en France à l'occasion de la prochaine présidentielle, alors qu'un proche du candidat Emmanuel Macron vient de dénoncer l'ingérence de la Russie. François Hollande qui a demandé que lui soient présentées les mesures spécifiques de vigilance et de protection, y compris dans le domaine cyber, prises pour la campagne présidentielle. C'est ce qu'a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Les policiers malaisiens qui enquêtent sur le meurtre du demi-frère en disgrâce du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont arrêté une suspecte. Il s'agit d'une femme détentrice d'un passeport vietnamien, la Corée du Nord. Elle évoque un assassinat perpétré par des espions envoyés par Pyongyang. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guériec.
Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement va financer à hauteur de 108 millions d'euros deux projets agricoles destinés à garantir la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté dans ce pays qui importe une bonne partie de ses produits de base. Toujours en Côte d'Ivoire, le président du syndicat national des producteurs individuels de café cacao interpelle le gouvernement. Selon lui, le cacao ne se vend pas et ne s'achète plus au bord-champ. Les prix fixés par le conseil du café cacao ne sont pas respectés au bord-champ, estime le syndicat. Énergie renouvelable, l'Afrique subsaharienne a presque tout à faire, selon la Banque mondiale. L'institution dénonce un manque de politique encourageante et d'un cadre réglementaire et légal permettant la diffusion de ce type d'énergie.
Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane.
Alors pour la page des sports, on démarre par la Ligue des champions en Europe. À suivre ce soir, Real Madrid-Naples avec le retour de Ronaldo.
Oui, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, s'attend à souffrir ce soir face au jeu offensif de Naples. C'est ce qu'a déclaré hier l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane. Il a appelé ses joueurs à se battre et à rester concentrés. Cristiano Ronaldo devrait tenir sa place. Il y avait des incertitudes en début de semaine. En revanche, Gareth Bale, lui, est encore convalescent. Il n'est pas convoqué.
Et Bayern Munich-Arsenal, c'est aussi ce soir.
Le Bayern Munich et Arsenal qui se sont rencontrés 5 fois en Ligue des Champions au 21e siècle, en phase de poule ou en 8e de finale. Et les londoniens n'ont jamais pris l'avantage sur l'ensemble des deux matchs. À 3 reprises déjà, 2005, 2013 et 2014, Munich a éliminé Arsenal en 8e de finale.
Feu d'artifice hier soir à Paris.
Le Parc des Princes en feu, 4-0. La facture salée du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, complètement éteint hier dans la capitale française. Di Maria par deux fois, Drexler et Cavani ont permis au Paris Saint-Germain de prendre une sérieuse option pour la qualification en quart de finale. Le match retour s'annonce compliqué au Camp Nou face à un Barça qui voudra prendre sa revanche et laver son honneur. Une statistique quand même, le Paris Saint-Germain a 100% de chances de se qualifier puisque tenez-vous bien, depuis 1970, sur 169 équipes qui ont gagné 4-0 à l'aller en Coupe d'Europe à domicile, 169 se sont qualifiés. À coup sûr, Messi, Suarez et Neymar voudront faire mentir les statistiques.
Défaite en revanche pour le Borussia Dortmund.
Avec un immense gardien et un brin de réussite, Benfica a battu 1-0. Dortmund, lors de ses huitièmes de finale aller, notons qu'Aubameyang a même raté un pénalty.
L'Europa League, elle, reprend ses droits jeudi.
Le club français de Saint-Etienne arrive sur la pointe des pieds chez l'ogre Manchester United lors de ses 16e de finale aller de l'Europa League, dans une soirée également marquée par Villarreal qui va accueillir jeudi l'AS Rome. Petit clin d'œil de l'histoire, le Stéphanois Florentin Pogba va défier le club anglais de son frère Paul Pogba, qui est quand même la recrue la plus chère de l'histoire du football, lorsqu'il a été transféré de la Juventus Turin à Manchester United pour, tenez-vous bien, 105 millions d'euros.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Malgré l'absence de Kevin Love opéré la veille d'un genou, Cleveland a poursuivi son cavalier seul en tête de la conférence Est après sa victoire contre Minnesota 116-108. À l'Est, les Bulls de Chicago, avec Jimmy Butler de retour de blessure, ont obtenu contre Toronto une précieuse victoire dans la course aux playoffs, 105-94. Enfin, dans le troisième match de la soirée, à l'Ouest, ça va toujours très mal pour les Lakers, ceux qui se traînent à l'avant-dernière place de la conférence. Ils se sont inclinés chez eux d'un petit point face à Sacramento, 96-97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Une fois n'est pas coutume, on démarre par l'actualité internationale. Le président américain Donald Trump, qui a reçu ce matin, qui continue de recevoir le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou. Et pour en parler, Scott Babb, chef du service français de VOA Afrique, et également ancien correspondant à Jérusalem. Scott, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on a suivi tout à l'heure la conférence de presse en direct entre les deux dirigeants. Ce qui semble sortir, en tout cas ce qui semble être la priorité pour aussi bien Donald Trump que Benjamin Netanyahou, c'est l'Iran.
Oui, je crois d'abord que c'est un problème qui pour eux est le plus grand pour le moment. Et ils sont en plus en concordance pour une solution, c'est-à-dire ils pensent que l'accord qui a eu il y a quelques années sous l'administration de M. Obama n'était pas bon et qu'il faut revoir, il faut encore ajouter encore de sanctions économiques pour pressionner encore l'Iran. Donc là, ils sont plus ou moins d'accord, mais on verra les modalités qui vont suivre après.
Le président Trump a réitéré qu'il ne va jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Qu'est-ce que cela présage en termes de relations entre Washington et Tel Aviv d'un côté et Téhéran de l'autre?
Eh bien, pour moi, ça représente un certain resserrement de liens entre Israël et les États-Unis, pour le moins pour le moment, mais aussi une certaine distance et peut-être tension accroissante avec Téhéran. Cet accord, le but de cet accord était d'arrêter le programme nucléaire de l'Iran et de permettre des inspections et jusqu'à présent, ça a eu cet effet. Mais les détracteurs ne pensent pas que ça va aboutir à une bonne solution dans le long terme. Et ils sont inquiets que le temps qu'il faudrait pour l'Iran pour acquérir d'une arme nucléaire est beaucoup trop courte maintenant.
Mais est-ce que si Washington suit un peu ce que Israël souhaiterait, c'est-à-dire remettre en cause l'accord, est-ce qu'il ne risque pas de s'aliéner aussi ses alliés européens?
Absolument, parce que l'Europe a beaucoup appuyé un accord et ne cherchait pas une confrontation. D'ailleurs, ils ont déjà, certains pays, par exemple l'Allemagne, ont des liens commerciaux très très importants. Alors, ça va vraiment tendre un peu les tensions avec l'Europe, mais aussi on doit voir comment va procéder sur le terrain l'administration qui est encore très nouvelle et si vraiment il n'y aura pas une certaine modération au fur et à mesure qu'ils prennent conscience de tous les détails et toutes les complications dans cet accord.
Mais l'option militaire n'est pas sur la table, selon vous?
On ne parle plus. On parlait avant de bombarder les infrastructures, mais il aurait fallu des semaines et des semaines de bombardes intenses avec des gros obus dont possèdent seulement les États-Unis. Et la volonté publique maintenant n'est pas derrière une autre guerre dans le Moyen-Orient. On est déjà à deux et c'est déjà trop pour le peuple américain.
L'autre question qui a été abordée, c'est la question des colonisations en Cisjordanie est occupée. Et là aussi, quelle a été votre impression?
Eh bien, M. Netanyahou dit que la question des colonies n'est pas essentielle à l'accord de paix. Mais beaucoup d'Arabes et de Palestiniens vont dire que non, ça fait absolument partie de toutes les négociations. Parce que c'est l'occupation de la Cisjordanie par l'Israël qui est un des trois grands points. Bon, on parle d'une éventuelle solution où les colonies déjà très établies qui sont près de la frontière pourraient être absorbées par l'Israël en échange d'autres terres. Mais on n'est pas encore là. Il y a plus de 300 000 colons maintenant. Donc quand même, ça va rester un point à négocier.
D'accord. Scott Babb, ancien correspondant à Jérusalem et actuel chef du service français, merci beaucoup d'être là avec nous pour analyser à chaud cette rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur le décret anti-immigration, le bras de fer entre Donald Trump et la justice fédérale, un texte contesté puis bloqué par un juge de l'État de Washington, mais qui génère encore de la confusion. Qui vise-t-il? Quels sont les recours possibles? Donald Trump qui fait appel peut-il passer en force? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Au Bénin, la décision de suppression des visas d'entrée et de séjour au profit des ressortissants de 30 pays africains prise par le président Patrice Talon en août 2016 pendant une visite au Rwanda est finalement rentrée en vigueur. Adoptée en Conseil des ministres en octobre dernier, la mesure est désormais effective. Et pour en parler, John Lindon a joint à Pretoria David Zunmenu à Dessous de l'Institut d'études de la sécurité.
Je pense que c'est une bonne décision qui va dans le sens de rencontrer, sinon de mettre en œuvre ce que le président avait annoncé ou les chefs d'État de gouvernement avaient annoncé de rendre les articulations des personnes et des biens en Afrique sans visa, moins houleuse pour les citoyens africains, en fait, penser à amoindrir et à réduire les obstacles au mouvement des citoyens sur le continent. Donc je pense que cette décision du Bénin, en plus de renforcer déjà des acquis au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, vient d'ouvrir une porte vers une parfaite intégration du continent africain.
Alors, qu'est-ce qu'une telle décision rapporte au pays?
Une telle décision aura d'abord pour première conséquence l'ouverture du pays au monde extérieur. Le secteur du tourisme étant resté un secteur qui n'attire pas pour souvent du monde, faute de connaissances du pays, je pense que les premières retombées ne peuvent être qu'économiques pour le pays. En plus, cela facilite la circulation des capitaux, des individus qui veulent investir ou qui cherchent des opportunités d'affaires, qui veulent explorer les opportunités dans tel ou tel pays, trouveront la tâche beaucoup plus facile aujourd'hui que les visas sont supprimés et le pays pourrait en bénéficier aussi bien socialement, politiquement qu'économiquement.
L'Union africaine veut qu'on supprime les barrières. Est-ce que c'est applicable à l'échelle continentale, cet exemple du Bénin?
Je pense que c'est applicable à l'échelle continentale. Seulement, il y a des défis colossaux auxquels nous devons faire face. D'abord, tous les pays n'ont pas la même compréhension de ce que c'est qu'un continent sans frontières, de ce que c'est que la circulation, la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux. Car chaque pays y voit encore ses intérêts particuliers. Il y a des pays où la xénophobie continue toujours d'être une arme entre les mains des politiciens pour se débarrasser de leurs responsabilités dans l'échec social ou économique de leurs citoyens, l'échec à pouvoir trouver du boulot, à créer des emplois, à pouvoir aider l'économie à se décoller et de ce fait jette la responsabilité sur les étrangers. Et il y a des pays qui dépendent exclusivement des frais de visa pour remplir.
C'était David Zunmenu de l'Institut d'études de la sécurité à Pretoria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Guinée, le gouvernement a décidé de fermer les écoles après une grève des enseignants et des élèves qui se sont joints au mouvement. Le président Alpha Condé a rencontré cet après-midi les syndicats d'enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail. Reportage à Conakry, Zakaria Camara.
Parmi les 9 points de revendication, la situation des enseignants contractuels non retenus au concours d'entrée dans la fonction publique. Mamadi Magasuba est membre de l'Unité d'Action, une plateforme qui regroupe 10 centrales syndicales. Le 1er février, lui et ses collègues avaient lancé une grève de 7 jours.
Imaginez que ces contractuels qui ont enseigné, qui ont sacrifié au moins les 5 ans bénévolement dans les écoles. Ce sont les écoles qu'ils assistent qui leur donnaient le transport, qui n'ont ni salaire ni rien, qui se sacrifient pour le peuple de Guinée, qui se sacrifient pour la famille de l'éducation, pour former les enfants. Ces contractuels devraient être prioritairement admis sans même concours.
Après quelques jours seulement, c'est l'intercentrale syndicale des enseignants de Guinée qui lance à son tour une grève illimitée. Comme les premiers, les syndicalistes grévistes souhaitent discuter avec le gouvernement du cas des contractuels non retenus, mais aussi revoir la grille des salaires des enseignants. Ben Souriba Camara, secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation.
D'abord, la valeur monétaire du point d'indice, qui est le point d'achoppement entre le gouvernement et les syndicats. savoir 1030 pour l'éducation, 977 pour les autres corps. C'est un point d'achoppement jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas trouvé de sortie de crise à ce niveau. Le deuxième point, c'est l'ancienneté. Ils ont formalisé quelque chose en faveur de l'ancienneté parce que d'aucuns ont été brimés dans la transposition de la nouvelle grille indiciaire. Ceux qui ont 20 ans, 30 ans de service CAI se sont retrouvés au même niveau, au même grade que ceux qui viennent sortir de l'université.
Les enseignants disent ne pas comprendre la nouvelle grille indiciaire proposée par le gouvernement. Mamadi Doumbouya, enseignant.
Quand vous prenez les camarades qui ont commencé en 2015, ils sont plus payés que les anciens. Compte tenu du temps mis dans le service, quelqu'un qui tombe un bon matin, il est plus payé que celui-là qui est né des années durant.
Les négociations sont en cours. Le gouvernement se dit confiant, mais reste préoccupé quant à l'augmentation de la grille salariale globale. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le transport du fret burkinabé par la route a du plomb dans l'aile sur le corridor ghanéen. Depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre acteurs de ce secteur. Un groupe de transporteurs indépendants accuse l'organisation des transporteurs routiers du Burkina Faso d'entraver leurs activités avec la complicité du Conseil burkinabé des chargeurs. De Ouagadougou, Issa Napon.
La bataille fait rage entre l'organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF, organisation fêtière des transporteurs d'un côté, et de l'autre, un groupe de contestataires constitué d'un syndicat et d'une société de transit installée au Ghana. Pour ces derniers, l'OTRAF a une mainmise insupportable sur les activités de transport du fret, notamment celui depuis le corridor ghanéen. Toute chose qui pèserait sur leurs activités, le transitaire de la société GNE Shipping, remet Al Sawadogo.
Et depuis 2014, le CBC a essayé d'instituer un document qui s'appelle bon de chargement. Dès que nous sommes prêts pour entrer faire le chargement à l'intérieur du port, il faut qu'on passe par le CBC pour prendre ce document. Vous ne pouvez pas aller dans le port de Tema faire vos chargements librement tant que ce n'est pas le CBC qui prend votre fret. Donnez à l'OTRAF qui décide de ce qu'il veut faire.
Le bureau de l'OTRAF a fini par sortir du bois pour rétablir ce qu'il appelle des contre-vérités. Son président, Issoufou Maïga.
Un adage qui dit, si un menteur vous devance, c'est le chef, vous avez tout à fait un problème.
ASC nous a saisi. On l'a dit que nous ne percevons pas de l'argent pour des bons de chargement. Vous avez vu la copie des bons de chargement, ce ne sont pas des imprimés à valeur. Je ne force pas quelqu'un à cotiser. C'est pour ça que je vous ai dit que nos cotisations partent de 300 francs à 35 000. Donc, l'assistance aussi, nous dépensons près de 1 500 000 francs par mois pour assister.
Romuald Sawadogo, responsable de la société GNE Shipping, s'insurge contre des textes qui donnent du pouvoir à l'OTRAF sur tous les chargeurs de fret. Des textes pourtant légaux, issus par l'autorité, se défend le président de l'OTRAF qui laisse entendre que les accusateurs travaillent dans l'anarchie et en dehors du quota fixé par le Burkina et le Ghana, à savoir 2/3 des fret transportés par des Burkinabés et 1/3 par des transporteurs ghanéens. Position d'ailleurs défendue par un représentant de l'Union des chauffeurs routier du Burkina, UCRB, qui applaudit l'action de l'OTRAF, Tassiré Ouedraogo.
À partir de 2014-2015, vous arrivez à Ouara Inter, c'est bourré de camions ghanéens. Pendant que nos frères sont au Ghana, ils dorment sous leur camion, ils vont passer leur temps à aller à l'OTRAF, prendre quelques 10 000 RCG Trap pour soigner leurs apprentis ou eux-mêmes, et ils n'ont même pas à manger.
Plus de 80% du fret à destination du Burkina Faso transite par la route, ce qui en fait un domaine qui suscite des appétits. Une bataille pour le contrôle du fret qui promet d'autres développements. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et tu vois, il faut que je go.
Ou bien ton collection.
Oui.
Ou bien ton collection. Yeah. Ou bien ton collection.
What else?
For day.
Huh?
Ou bien ton collection.
Oui.
bientôt ne collège.
Ah bah,
au bientôt ne collège.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Happy single. Oh yeah. I say happy single. Oh yeah. Namu fisa me shiase. Me koya masamba. Che. I want you to crack a fair moon tin and woman say my wife, mini dama. When in the wono. Namu fisa me yasanseni.